que vous êtes prêts pour la parole? J'ai une main qui se lève, les autres disent « moi aussi je suis là », d'autres disent « ben moi elle a levé la main pour moi », donc j'ai eu un cri du cœur. Ok, allez. Même si une tempête de neige faisait rage à l'extérieur, j'ai fait les 500 mètres jusqu'à la boulangerie où j'ai demandé 6 petits pains au propriétaire, au boulanger. Et le boulanger a dit, bah dites donc, votre femme doit amener les petits pains pour qu'elle en prenne, pour que vous en demandiez 6 comme cela. Et puis, le client dit, comment savez-vous qu'ils sont pour ma femme? Et le boulanger répond, parce que votre mère ne vous enverrait jamais dehors par un temps pareil. Je vous en donne une autre. Après qu'Adam ait passé quelques nuits dehors, il n'est pas rentré chez lui, Ève est devenue méfiante. Et puis un soir, elle n'en peut plus, elle lui dit « Tu vois une autre femme, hein? Admets-le !» Et Adam riposte « Non mais quelle autre femme? Tu es la seule !» Cette nuit-là, Adam dort profondément et tout d'un coup, il est réveillé par Ève qui lui envoie un grand coup de poing dans les côtes et il sent que son doigt est en train de presser contre les côtes. Et Adam, il se réveille, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Ève dit « Je compte les côtes. » Certains, ils n'ont pas compris la blague. C'est... Si vous relisez Genèse chapitre 3, vous comprendrez pourquoi. Il y a un intérêt à lire sa Bible et à connaître les Écritures. Hein, parce que là, on peut comprendre les blagues. Alors, Amos 3.3, et non pas Samos 3.3, comme je l'avais pensé à un moment au début de ma vie chrétienne. Il ne s'agit pas de fromage, mais du nom d'un prophète, Amos. Il dit « Deux hommes... marchent-ils ensemble sans s'être concertés ? » La Bible amplifiée traduite dit « Deux personnes marchent-elles ensemble sans avoir pris rendez-vous et sans s'être mises d'accord ?» Ah ah ! C'est-à-dire avoir eu le temps de se consulter pour voir si l'autre va dans le même sens, comprend la même chose, est prêt à peut-être investir ce qui est nécessaire pour qu'un projet réussisse. Parce que peut-être qu'il y en a un qui partage un projet avec l'autre, et puis l'autre lui dit « oui, je suis d'accord avec toi ». Il y en a un qui va vers le sud et l'autre qui va vers le nord. Et là on dit « ça ne peut pas marcher ». Ce n'est pas simplement être d'accord sur où on veut aller, c'est être d'accord sur ce qu'il est question d'investir pour que les deux se retrouvent au même moment, pas un après l'autre, au même moment sur la ligne d'arrivée. Alors, nous sommes encore suffisamment près de la Saint-Valentin pour parler des relations. Quelquefois, on entend parler des relations, des tensions dans un couple, et puis dans deux couples, et puis dans trois couples, et puis dans quatre couples, et on se dit... Waouh, comment s'est passée cette Saint-Valentin? C'était la Saint-Barthélemy plutôt, non? Et il est bon de temps en temps de reprendre une perspective biblique et de se rappeler qu'il s'agit d'être d'accord sur des projets, de dire comment va-t-on finir notre vie ensemble? Et c'est valable pour toutes les relations. C'est valable pour les relations parents-enfants, c'est valable pour les relations avec des amis, c'est valable pour des projets que l'on a au travail qui, évidemment, impliquent des relations. Personne ne travaille jamais seul. Vous pouvez dire, oui, mais il y a un écrivain qui peut passer son temps à écrire seul chez lui. Oui, mais s'il ne travaille pas avec un éditeur, eh bien, il a travaillé pour rien. Donc, nous, les êtres humains, eh bien, il est toujours question de relations. Et quand il y a des divisions dans une relation, quand il y a des tensions dans une relation, qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle qu'il y a trop de chair vivante. trop de chair vivante, c'est-à-dire qu'il y a trop de « moi je » et « moi j'ai le droit » et « pourquoi pas moi » et « moi j'ai toujours » et « toujours » et... C'est-à-dire le « moi », le « moi », le « moi », le « moi » est encore bien vivant. Dans Galates chapitre 5, verset 15, il y a un verset qui dit « mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Une autre version dit « mais si vous vous blessez les uns les autres », et on ne parle pas seulement de, on parle pas de blessures physiques, mais on parle de blessures qui sont dues à des paroles, qui sont dues à des actes. Les gens, très souvent, connaissent de l'amertume. L'amertume se produit quand quelqu'un dit quelque chose qui est en dessous de notre expectative ou fait quelque chose qui est en dessous de notre expectative. Donc, il y a toutes sortes de blessures, mais ici, la Bible du Semeur dit « si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. » C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du diable pour que votre couple, pour que votre famille, pour que votre projet au travail échoue, pour que vous perdiez des amis. La Bible, la Passion dit, « mais si vous continuez à vous critiquer et à vous monter les uns contre les autres sur des questions mineures, » Vous savez, il y a des gens... Ils ne se parlent plus depuis une semaine, ils ne savent même plus pourquoi. Mais maintenant, c'est une question d'honneur. Il est hors de question que je me rabaisse à reprendre la vie comme elle était avant. Il est hors de question que je continue à donner des coups de téléphone. Il est hors. Pourquoi ? Parce que c'était des questions mineures. Mais maintenant, c'est une question non pas d'honneur, mais d'orgueil. Et la suite dit « vous agissez comme des bêtes sauvages qui essaient de se détruire mutuellement ». Des bêtes sauvages, c'est-à-dire la chair a libre cours. La partie non régénérée de l'être humain a libre cours. Et moi, et moi, et moi, nous sommes nés de nouveau, nous avons la nature de Dieu en nous, nous sommes à l'image de Dieu, mais nos pensées ne sont pas encore renouvelées au mode de vie céleste. Nos pensées, notre intelligence n'a pas été encore transformée suffisamment par la parole de Dieu. Et donc on continue à penser comme on pensait sans Christ, selon l'éducation que l'on a reçue sans Christ. Une autre version, est-ce que vous pouvez supporter une autre version ? Voilà, ben maintenant, il faut un peu de courage. Hein. Dis à ton voisin, sans lui enfoncer les côtes, donne-lui un petit coup de coude et dis, peux-tu supporter une autre version ? Alors, parce que vous insistez, la Bible Philips dit, mais si la liberté signifie uniquement que vous êtes libre de vous attaquer et de vous mettre en pièces, faites attention à ce que cela ne signifie pas contre vous. Vous détruisiez complètement votre camaraderie. C'est-à-dire que chacun, on a, et ça c'est quelque chose qui est revenu ces temps-ci, nous devons tous savoir que Dieu, oui, est souverain, mais que dans sa souveraineté, il a choisi de nous laisser le libre arbitre et de nous laisser faire des choix. En revanche, comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de notre choix. Je suis libre de choisir, oui, de bien parler à l'autre, mais si je parle mal, je ne suis pas libre d'exiger qu'il y ait la paix à la maison. Parce que si je parle mal à l'autre, la conséquence, c'est la division, le désordre, le chaos, la confusion. Et donc, il est bon peut-être de réécouter ce message-là. Donc, les conséquences, si nous sommes libres de faire des choix sans être libres des conséquences de ce choix, ce qui veut dire que chacun, dans un couple, dans une famille, au travail, dans une relation, peu importe, doit grandir. La responsabilité de chacun est de se donner les moyens de grandir. On doit être sans cesse en train de grandir, sans cesse en train d'apprendre à maîtriser notre chair, sans cesse en train d'apprendre à pratiquer la parole, sans cesse en train, nous devons sans cesse nous donner les moyens d'aller chercher la vérité et de la pratiquer. L'option, écoutez bien, l'option n'est pas de grandir ou de rester au même niveau. L'option n'est pas de grandir ou de rester pareil. Mais l'option est de grandir ou de s'éloigner de l'autre. Pourquoi ? Parce que personne ne peut rester pareil. Personne dit « moi, je n'ai pas besoin de changer ». Tel que je suis, tu sais, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, mon grand-père était comme ça, ma grand-mère était comme ça. Dans la famille, c'est comme ça qu'on est. Pourquoi ? Parce que les événements de la vie vont nous éloigner de l'autre si on pense comme cela. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de grandir ? Je vous le dis tout à l'heure. Non, je vous le dis maintenant. Pourquoi ? Parce qu'à chaque âge, on a besoin d'apprendre à réagir différemment. Vous savez, nous sommes nés dans une génération où nous avons dû apprendre à vivre avec le terrorisme. Moi, quand j'étais enfant, c'était un mot qu'on ne connaissait pas. On laissait les portes de la maison, elles n'étaient pas fermées à clé. On laissait encore les clés sur le contact de la voiture. On laissait des affaires dans la voiture. Aujourd'hui, on cache tout. On ne laisse plus rien de visible dans une voiture, on ferme à clé et on a une bonne assurance et on ne se gare pas n'importe où. Est-ce vrai ? Nous avons dû apprendre à vivre avec l'expression « pollution environnementale ». C'est quelque chose de nouveau. On a dû apprendre avec des mots comme « Internet ». Ce qui veut dire que notre monde est en train d'évoluer. Et ce que j'ai appris hier m'aide à faire des choix intelligents aujourd'hui et à garder ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Quelqu'un qui dit, moi je n'ai pas besoin de faire l'effort de grandir, je n'ai pas besoin de faire l'effort de changer, c'est quelqu'un qui est en train de regarder sa petite personne et qui est en train de dire, ben, je n'ai pas besoin de me préparer au jour, au mois et aux années à venir. C'est quelqu'un d'inconscient. D'inconscient. Proverbes chapitre 1, verset 5 dit que le sage écoute. Que le sage écoute, vous imaginez ? Pas que l'ignorant écoute, ça devrait être évident. Mais même si nous croyons savoir, même ceux qui croient savoir ce qui concerne le mariage, parce qu'ils sont mariés depuis, je sais pas moi, 15 ans, 30 ans, la Bible dit, si tu dis que tu es sage, tu as besoin d'écouter. Parce que tu ne sais pas ce qu'est un mariage à 80 ans. Tu ne sais pas ce qu'est cette relation quand un enfant a des difficultés. Vous comprenez que la parole nous prépare au futur. Quelqu'un qui vient de se marier et qui a peut-être un enfant a besoin de continuer à apprendre de la parole de Dieu concernant le mariage parce que cette personne ne sait pas ce que sera cette relation avec l'autre quand son enfant aura 15 ans et qu'il ne voudra pas aller à l'école alors qu'il doit y aller pour son futur. Donc que quelqu'un dise « je n'ai pas besoin de grandir », c'est quelqu'un qui ne voit pas plus loin que son nombril. Le problème, c'est qu'on est souvent en train d'exiger que l'autre grandisse. Mais dans le royaume des cieux, ça ne marche pas comme cela. Dans le mode de vie de Dieu, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire des choix. Un enfant, on peut, tant qu'il a... l'âge de raison, on doit dire à un enfant, tu fais ci, tu ranges ta chambre, tu as tant de temps pour le faire, tu manges ceci, tu manges cela. Mais à un moment, il va falloir lui dire, tu as le choix entre le gruyère et le camembert, lequel des fromages veux-tu ? Et puis à un moment, bah, il va choisir lui-même ce qu'il veut manger parce qu'il a été bien éduqué, il a appris non pas à manger, mais à nourrir son corps, ce qui est différent. Proverbe 1, 5 dit « Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Nous devons accepter que nous avons besoin d'augmenter notre savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. » Une autre version dit que le sage écoute et il enrichira son savoir. Et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ou de se conduire avec sagesse comme... Il y a une autre version qui a dit, il n'y a pas grand-chose de pire qu'une vie dépouillée de croissance et d'amélioration. Il y a un entraîneur de football, John Wooden, qui a dit, « Ce qui compte, c'est ce que vous apprenez alors que vous savez tout. » Proverbe 1, 7 dit « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. » Une autre version dit « C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. » Ce qui veut dire que notre futur est lié à ce que l'on cherche à savoir et ce savoir vient de l'Éternel. Ce monde sans Dieu ne sait pas ce qu'est une relation qui est réussie. Ce monde sans Dieu n'a pas suffisamment de sagesse. Vous vous rappelez que Dieu a dit dans Ésaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » C'est-à-dire, Dieu dit, « Ma manière de faire n'est pas la vôtre. » Pourquoi la nôtre dépend uniquement de ce que l'on voit. Mais le problème, c'est qu'on pense savoir ce que sera cet après-midi, la vérité, et qu'on ne sait pas. Dieu, dans sa préscience, sait. Il a déjà vu cet après-midi. Dieu a déjà vu l'an 2035 en ce qui nous concerne. Nous n'arrivons même pas à voir ce que nous voyons pour l'année prochaine et encore au stade des rêves. Alors, la connaissance qui va nous permettre de grandir. Quand nous la mettons en pratique, il faut accepter que celui qui a raison, c'est l'Éternel. Il faut accepter que pour qu'une relation réussisse, il faut que chacun grandisse. Un couple tel qu'il est maintenant, une relation amicale ou quoi, ne peut pas, ou même un employé-employeur, une relation telle qu'elle est maintenant, ne suffit pas pour les mois qui arrivent. Proverbe, on a lu tout à l'heure, Proverbe 1,5 dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent, c'est-à-dire qui discerne, qui comprend ce qu'il entend, acquérera de l'habileté, c'est-à-dire une direction, un conseil, une orientation. Ce qui veut dire que la croissance n'est pas automatique. Ça n'est pas parce que je serai vivante l'année prochaine que j'aurai grandi. La question, avons-nous grandi depuis le mois de décembre? C'est peut-être la raison pour laquelle nous ne sommes pas prêts à ce qui se passe aujourd'hui. Je sens que vous réfléchissez, hein. Mais souriez, s'il vous plaît, souriez en même temps, ça m'aide. C'est-à-dire, à un moment, on a été jeune, mais certains ont vieilli et sont encore immatures. Dites, à quoi ressemble quelqu'un d'immature? Quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui laisse son moi partir, qui n'est pas capable de le contrôler. C'est quelqu'un qui marche par la vue et qui ne marche pas par la foi. C'est ça, quelqu'un d'immature. L'immaturité n'a pas d'âge. On aimerait croire qu'elle en a un, mais elle n'a pas d'âge. D'après ce verset, on apprend également la croissance d'aujourd'hui contribue au succès de demain. Et ensuite, on comprend que croître est une responsabilité individuelle, personnelle. Il y a 6 principes relatifs à la croissance personnelle. On a tendance à regarder au microscope les actes et les intentions de l'autre. Mais il faut accepter de s'examiner soi-même, d'avoir un face-à-face avec soi-même, au lieu de toujours prendre des selfies pour se dire « Waouh, je suis vraiment bien aujourd'hui ». Alors, il ne s'agit pas non plus de s'auto-flageller et de voir tous les défauts. Il y a un équilibre. Parce que la vérité est que quand on se regarde dans le miroir de la parole de Dieu, on voit qui nous sommes en Christ, on voit qui on est à l'intérieur, on voit à quel point on est victorieux, à quel point on a une nature qui est pleine d'espérance, qui est pleine de force, qui a un futur brillant. Et quelquefois, quand on regarde à notre comportement, à ce que l'on se laisse aller dans la chair, on accepte n'importe quelle pensée de suspicion sur l'autre. Je parle à quelqu'un là. On accepte de croire n'importe quoi sur l'autre. Des fois, il faut se dire, non mais regarde, regarde depuis le nombre de mois, d'années que tu le connais. C'est faux ce que tu penses là. Il y a des fois où on doit se dire, stop, je n'ai pas le droit de penser ce que je pense de l'autre. Il y a des preuves, il y a un vécu. Oui, mais je le pense. Ben justement, arrête. Arrête de laisser ce moi ancien prendre le dessus. Alors, 6 principes relatifs à la croissance personnelle. 1, ne jamais se satisfaire de ses réussites actuelles, du niveau où on est. Oui, mais tu comprends, nous, on s'entend. Oui, tu t'entends dans les situations que tu connais. Ma question est, qu'en est-il des situations que tu ne connais pas ? Demain, il y a une inondation. Je ne suis pas en train de prophétiser. Hein. Certains chrétiens, ils sont nerveux dès qu'on dit « Ah, non, non. ». Demain, il y a une inondation. Tu perds tout. Est-ce que ton couple résiste à ça ? Est-ce que ta relation avec tes amis résiste à da-da-da ? C'est ça la question. Aujourd'hui, d'accord, mais demain ? Donc on ne peut pas se satisfaire du niveau où on est. Quelqu'un a dit, le plus grand ennemi de la réussite de demain est la réussite d'aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas croire qu'on est arrivé, refuser de plafonner. Quelqu'un d'autre a dit, écoutez, c'est tragique quand on est monté sur notre dernière marche. Parce que quand ça arrive, c'est qu'on est devenu vieux, qu'on est 9 ans ou 99 ans. Quelqu'un qui dit, moi, ça y est, je suis arrivé. 2, on doit continuer à désirer le changement. Refusons de nous installer dans la zone de confort ou de laisser le succès nous monter à la tête. Être toujours en train de dire, on peut mieux. Ce n'est pas simplement l'autre peut mieux, c'est je peux mieux. 3, apprendre en permanence. Henry Ford, celui qui est créateur des voitures et puis d'un système de production, a déclaré « J'ai constaté que les personnes qui réussissent prennent de l'avance pendant que les autres perdent du temps. » Est-ce que je répète ? J'ai constaté que les personnes qui réussissent prennent de l'avance pendant que les autres perdent du temps. C'est ce que Proverbe 9 dit, oui, donne des conseils aux sages et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. Et puis il y a encore un autre élément, c'est qu'il faut accepter le prix, de payer le prix de la croissance. Il y a un prix à grandir. Salomon a dit dans le Proverbe 4, verset 7, acquiert la sagesse et l'intelligence. Une autre version dit, le début de la sagesse est d'obtenir la sagesse. Renoncez à tout ce que vous avez afin d'obtenir la compréhension. Une autre version dit, si cela devait vous coûter tout ce que vous avez, obtenez, acquérez la compréhension. Puis il faut trouver un moyen d'appliquer tout ce que l'on apprend. Refusez de laisser la connaissance se transformer en savoir, mais transformer la connaissance en action. Parce que la croissance ne vient pas uniquement dans le fait de savoir comment parler à l'autre, comment traiter l'autre, comment aboutir à un projet. Le but de la connaissance, c'est qu'elle se transforme en action, qu'on la mette en pratique. C'est-à-dire que Christ, vous vous rappelez quand Jean-Baptiste a vu Jésus, on peut résumer dans cette phrase. Il a dit... il faut qu'il croisse et que je diminue. Et la clé dans une relation n'est pas de se soucier de l'autre. Chacun est responsable de ses propres émotions. Mais de dire, il faut que Christ en moi croisse et que ma chair diminue. Ça, c'est ma responsabilité. Pour que cette relation marche, c'est ma responsabilité de grandir. C'est ma responsabilité d'aller chercher la connaissance. Quand, par exemple, il y a des conférences, des séminaires sur le mariage qui sont proposés, c'est ma responsabilité d'y aller, que l'autre vienne ou pas. C'est ma responsabilité d'acheter des livres pour savoir comment éduquer un enfant. Mais c'est la responsabilité de chacun. Certains disent « je n'aime pas lire ». Change cela. Il y a un moment, je n'aimais pas tel fromage, aujourd'hui j'en raffole. À un moment, je n'aimais pas la viande, aujourd'hui j'en mange. C'est aussi simple que ça. Je n'aime pas, vous savez, dans notre cœur, on aime tout ce qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Quand on dit « je n'aime pas », on ferait mieux de dire « ma chair n'aime pas ». La Bible nous dit « l'esprit est bien disposé ». L'esprit est bien disposé. La chair, elle est faible. Mais très souvent, c'est à elle que l'on permet de crier le plus fort. Un peu comme les LGBT qui sont peu et on a l'impression que c'est tout le pays en entier, là. Quel est le processus de la croissance personnelle? Bien, c'est nous devons être prêts à mourir pour le Christ, pour que sa volonté soit faite dans ma vie, dans cette relation. Je dois être prête à crucifier ma chair. Je dois être prête à perdre ma façon de faire, ma façon de penser, ma façon d'envisager le futur. Je dois être prête à laisser de côté ces choses-là. Si ce que je pense ou fais m'empêche de grandir. Nous devons être prêts aussi à vivre pour Christ. Je dois être prêt à mettre en pratique ce que je comprends, que Christ, la vérité, m'a fait connaître. Lorsqu'il s'agit de croissance personnelle, nous n'avons aucune excuse, car nous avons en nous le grand enseignant. Vous savez, il est bon parfois d'évaluer le coût si je ne faisais rien. Que se passerait-il si je refusais de grandir? Que se passerait-il si je refusais ma responsabilité d'aller chercher la vérité? Que se passerait-il si je refusais de mettre en pratique ce que Christ me dit? Il y a un coût à cela. La vraie question est, quel est-il? Quel est-il? Quel est-il? Beaucoup de couples, vous savez, beaucoup de personnes vont mourir seules sur cette terre. Pas parce qu'elles n'ont jamais eu de personne autour d'elles, mais parce qu'elles n'ont jamais voulu grandir. C'est comme ça que je fais les choses. Qui va te tenir la main à ce moment-là? Vous savez, les couples les plus victorieux ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu de problème. Les gens qui me disent, tu sais, nous, on s'entend bien, pour moi, il y a un problème avec cela. Parce qu'il y a juste la personnalité de l'un des deux qu'on ne voit pas. Avoir des difficultés à surmonter, vous savez quoi? C'est la route sur cette terre. Aucune route sur la planète Terre n'est juste nickel, même pas nos belles autoroutes françaises qui coûtent si cher. De temps en temps, on sent qu'il y a une bosse, on sent qu'il y a juste quelque chose, où il y a juste un virage qui aurait peut-être besoin d'être un peu moins pointu, etc. Il faut accepter, le problème n'est pas qu'il y a un problème, le problème est qu'on ne cherche pas à faire notre part pour vaincre ce problème. Et quand des amis, quand un couple arrive à la fin de sa vie et arrive à dire, tu sais, on a vaincu. Ben moi, je crois que c'est cela que les enfants regardent. Ce sont ces gens-là que les autres autour ont envie de copier. C'est pas... Encore une fois, les problèmes sont sur cette terre. La chair, tout le monde en a. La question est, es-tu prêt à faire ce qui est nécessaire pour grandir? Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Hein. Mais en tout cas, il est certain que chaque couple ici doit se poser la question. Peut-être évaluer le coût si tu choisis de ne rien faire. Il y aura un coût, il y aura. Encore une fois, il y a des conséquences. Tu es libre de choisir, mais il y a des conséquences. Alors, devant un auditoire aussi sérieux que celui que j'ai en face de moi maintenant, moi je vous propose, levons-nous. Et la Bible nous dit qu'il y a la grâce de Dieu qui nous a été donnée. La grâce de Dieu, c'est quoi? D'abord, la grâce de Dieu nous parle de l'initiative de Dieu. La grâce de Dieu nous parle de ce que Dieu nous donne et qu'on ne mérite pas. Tu sais, quelqu'un qui a été une bourrique pendant ces derniers jours, hein, je ne sais pas à qui je m'adresse, ça n'a aucune importance, peut-être qu'il y en a plus qu'un et deux, et puis il y a des gens sur Internet. Il peut dire, moi je ne mérite pas que Dieu me bénisse. C'est vrai. Mais Dieu veut quand même te bénir. Dieu veut quand même te donner ce qui est nécessaire pour que tu te redresses sur tes pieds et que tu reprennes l'espoir dans le futur, que tu reprennes l'espoir dans l'avenir. Moi, je vais proposer à tous ceux qui sont mariés de me rejoindre sur le devant, s'il vous plaît. Vous savez, ceux qui sont célibataires disent « Oh, moi, je voudrais marier. » Assurez-vous d'avoir le moins de chair possible. Enfin, tu peux venir sur l'estrade si tu veux. Hein. Assurez-vous, célibataires qui voulez vous marier, tu veux quoi? Tu veux me poser une question?
Oui. Là, ce dont tu parles, c'est quand, en fait, les deux dans le couple sont OK pour changer. Parce que qu'en est-il d'un couple où il y a une personne seulement qui désire changer et l'autre, depuis des années, ne fait rien?
Chacun fait sa part. Fred dit, tu parles pas de moi quand même. Chacun marche à la lumière de ce qu'il sait. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est de dire, tu sais quoi, peu importe, je garderai ma joie, je garderai ma paix, je ferai ce que Dieu me demande de faire. Un des gros défis, c'est de rabaisser son standing. Et de cesser de faire ce qui est juste parce que l'autre ne le fait pas. Ça, c'est un gros piège. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux. Amen. Est-ce qu'on peut dire Dieu est bon? Gloire à Dieu. Je vous souhaite une semaine bénie, une semaine riche en Christ. On se retrouve...